Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique les amis, on est le lundi 4 novembre, oui, ça fait du bien de se retrouver après un long week-end, mais un long week-end où on a pu jouer bien évidemment. Au programme aujourd'hui, je vais vous inviter à partir du côté de l'Asie, oui, du côté du Japon, et puis on retrouvera notre ami Ludo pour le point sur les J. Eh bien C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer, c'est ludique.
Et au menu aujourd'hui, eh bien c'est Let's Go to Japan, un jeu de Josh Wood, édité par donc Panic Games. Alors ce midi, je vous propose de vous évader au pays du soleil levant, vous incarnez un voyageur qui va planifier et vivre ses propres vacances au Japon. Alors il y aura 13 manches au cours desquelles vous allez piocher des cartes illustrées par des artistes basés au Japon. À vous de les placer de manière stratégique en dessous des différents jours de la semaine. Alors au niveau de la mise en place, chaque joueur a son propre plateau de jeu qui comporte des emplacements pour 6 jours de voyage. Au-dessus se trouve une grande piste de score pour vos 5 marqueurs expérience, temple, nourriture, boutique, jardin entre autres. Enfin en haut, il y a un endroit pour suivre votre humeur et un espace pour que les autres joueurs puissent déposer des cartes. Un joueur place au hasard les 6 jetons conditions favorables sur les 6 jours de son plateau et tous les autres copient ce modèle. Les 2 jeux de cartes, un pour Kyoto et un pour Tokyo, sont mélangés et placés sur la table. Et bien voilà, vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue ? La première chose, c'est de piocher des cartes. Ensuite, vous jouerez des cartes de votre main sur votre plateau de joueur, puis passerez certaines cartes non jouées de votre main à votre voisin que vous poserez sur sa défausse. Le compteur de tours vous rappelle combien de cartes piochées, combien jouées et combien passées à chaque tour. Certaines cartes draftées sont mises dans la défausse du joueur face cachée et seront donc piochées par moment. Lorsque vous jouez des cartes, vous les placez sous les 6 colonnes de votre plateau, les 6 jours de la semaine. La plupart des points sont marqués en fin de partie. Vous jouez une carte à n'importe quel jour et si des cartes précédentes ont déjà été jouées à ce jour-là, vous pouvez les replacer librement au-dessus ou en dessous des cartes. Vous verrez, ça va avoir une importance, notamment il est plus intéressant de mettre des cartes Tokyo à la suite pour éviter les trajets vers Kyoto. Les jetons train, ce sont des points en moins. Alors si vous n'aimez pas les cartes que vous avez en main, vous pouvez décider de faire une balade. Pour cela, vous défaussez n'importe quelle carte dans la pile de défausse, puis prenez la carte du dessus de l'un des paquets et placez-la face cachée sur un jour. Vous obtenez également un jeton de recherche. Les jetons de recherche peuvent être défaussés à tout moment afin de piocher 3 cartes de votre choix, puis de défausser immédiatement 3 cartes dans la pile de défausse centrale. Dans chaque colonne, il y aura donc 3 cartes. Quand une colonne a les 3 cartes, vous allez calculer le nombre d'icônes favorables au jour. Et selon le nombre, ça vous rapportera des bonus, comme déplacer le jeton humeur, des jetons de joker ou encore gagner un train de lutte. Parce que du coup, un train de lutte, ça vous permet de faire le trajet Kyoto-Tokyo. Quand on a joué nos cartes, on les passe à notre adversaire en suivant le sens indiqué. C'est ce qu'on appelle du draft. Quand vous avez 18 cartes, votre voyage est donc planifié. Il est temps de partir en vacances. D'abord, on va compter les points et chaque fois que vous allez vous déplacer de Tokyo à Kyoto ou vice-versa, vous devez poser un jeton train. Un jeton train normal entraîne une pénalité de moins de 2 points de victoire, mais les jetons train spéciaux que vous avez pu gagner vous permettent de gagner 2 points positifs et un bonheur. Ensuite, on va activer nos cartes, on marque les points des cartes, les bonus de la dernière carte de la colonne visible, puis on déplace le marqueur expérience selon le nombre d'icônes qui vous fera marquer des points selon l'endroit où il arrive à la fin de semaine. Il y a aussi les points des jetons humeur en positif ou en négatif à prendre en compte également en fin de semaine. Alors, il y a plein de choses. Ce que j'en pense de Let's Go to Japan, c'est un coup de cœur que je n'attendais pas forcément. On a vraiment l'impression de partir au Japon. Avec les illustrations magnifiques des cartes, on est plongé dans la culture japonaise. Ça donne d'ailleurs envie de partir pour tout découvrir. Le jeu est profond, a une belle rejouabilité. Il y a vraiment un grand parquet de cartes. Chaque partie est vraiment différente. Pour la petite histoire, l'auteur du jeu devait faire un voyage au Japon, mais le Covid est passé par là. Du coup, il a fait un jeu de société sur son voyage prévu. Allez, il ne vous reste plus qu'à faire vos valises. L'avion va bientôt décoller. C'est le moment, si vous voulez voir un cerisier en fleurs du côté de Kyoto. Ça s'appelle Let's Go to Japan et ça vient de sortir chez Don't Panic Games. C'est distribué par Asmodee. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Ludo pour le point sur les J.
c'est la pause du midi. Il te tente son avis. C'est ludique, c'est le point sur les G.
Et il te donne son avis, c'est tous les lundis, et c'est Ludo qu'on retrouve. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, c'est quoi le programme? C'est quoi le point sur les J?
Alors aujourd'hui, on va parler des séries. Est-ce que les meilleurs sont les premiers?
On parle de télé ou de jeux?
Eh bien, on parle de séries dans les jeux.
Ah d'accord, de séries
voilà,
dans
donc,
les jeux.
Mais on va digresser un tout petit peu au début, parce que c'est vrai qu'on entend souvent, genre, un copain à toi qui arrive et qui dit « Non, Matt, je t'assure, le premier, c'est le meilleur, les autres sont vraiment nazes.
Ouais. »
Ou bien « Moi, j'ai pinch-watché la saison 1, mais la seconde, franchement, c'est pas terrible,
c'est pas top,
tu peux
ouais.
t'en passer. » Enfin, on a tous vécu ce moment-là,
oui.
où dans les séries télé ou dans les films,
ouais, même au cinéma,
on se rend
ouais.
compte ouais, même au cinéma, que bah, le premier, ça cartonne. Alors, beaucoup dans les films d'horreur, surtout. Et après, bah, c'est pas génial, terrible. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des changements de réalisateurs, de scénaristes. Le casting, bah, c'est un peu tiré par les cheveux de revoir toujours les mêmes personnes. Ou alors, ils changent le rôle principal, mais juste l'acteur, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est moyen. Dans les œuvres de l'esprit, comme souvent, c'est une question de goût et de couleur, en fait. Mais contrairement à d'autres produits culturels comme les films ou la littérature, on peut pas vraiment dire que dans notre domaine, dans le jeu de société, il y a vraiment un phénomène de série.
De série.
Par contre, on peut se rapprocher un peu du phénomène, et là, on va pouvoir donner des exemples de 5 types, en fait, qui vont se rapprocher un peu des séries. On a les rééditions de jeux.
Ouais.
Bon, bah là, on peut considérer que c'est presque pareil,
oui.
mais pas tout à fait. On a les suites de jeux. On a les rethématisations.
Mmh.
On a les gammes de jeux. Et enfin, on a, et ça, il n'y en a pas beaucoup, mais on refait un jeu pour un nouveau public. On fait une espèce de mise à niveau d'un jeu pour un nouveau public.
D'accord.
Voilà, c'est les 5 points. Donc, pour chaque sous-catégorie, on va regarder un petit peu en détail si on peut effectivement se rapprocher de l'adage qui dit que les meilleurs sont
les
premiers dans les séries.
Voilà.
Alors, pour les rééditions de jeux, il y en a pléthore. Et puis, il y a souvent des cas différents. Ça peut être le même éditeur, quelques années ou même quelques mois, qui décide de refaire le jeu. Mais parfois aussi, les droits sont récupérés par l'auteur et ça repart dans une autre maison d'édition. Et quelquefois, la réédition va s'accoupler aussi avec la localisation du jeu. Alors, c'est pas systématique, mais parfois le jeu il est remis soit graphiquement au goût du jour, ou alors les règles sont un petit peu retouchées. On va réimprimer un petit peu et on met toutes les chances de l'autre côté.
Alors, du nouveau matériel aussi des fois?
Voilà, c'est possible. On va mettre un carton un peu plus épais, on va rajouter un petit truc dans le matériel, ou on va en enlever parce que bah du coup ça coûtait un peu trop cher, et c'est peut-être ça qui faisait que le jeu se vendait pas bien.
Ah bah, y a un cas actuellement précis d'un très grand jeu, c'est Everdell, qui vient tout juste de sortir
en version essentielle.
Voilà.
Alors c'est le thème, ça, pour dire, bah écoutez, on a enlevé tout ce qui nous coûtait cher.
Voilà, c'est
et
ça.
Et puis on l'a remplacé par du carton
ouais.
un peu épais. Mais alors moi, je trouve que l'initiative est vraiment cool. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas fait depuis le début, qu'on ait ce choix au départ. En fait, comme certains Kickstarter le proposent, mais que ça vient un peu après, une fois que le jeu s'est un peu déjà installé. Comme je dis souvent, il faut acheter un jeu et pas un prix. Mais quand l'éditeur nous promet des sensations identiques, en fait, pas de retouches de règles, etc., mais avec un prix quand même, je crois qu'il y a une bonne différence de prix, une vingtaine d'euros, non?
Oh, non, plus. On va dire que, je dis pas de bêtises, Everdell, il doit être dans les 60, à mon avis. Et là, on est à 40. Donc, il y a 20 euros. Et sachant qu'ils ont fait un truc, alors c'est pareil, il faut que je vérifie, mais ils vendent les ressources à part. Donc, une trentaine d'euros.
Oui.
Donc, au final, ça te coûtera plus
oui.
cher si tu prends le 2.
Bah, écoute, autant faire plusieurs petites boîtes qu'une grosse avec tout dedans. Bon, en l'occurrence, on est peut-être aussi sur une démarche marketing.
Ouais, je pense.
Et pourquoi pas, un éditeur, il faut qu'il gagne sa vie.
Ouais, je pense aussi, c'est le fait que si vraiment la personne a apprécié le jeu Everdell, eh ben, dans ces cas-là, elle se dit, ah bah, j'ai envie peut-être d'avoir des plus belles ressources que du carton. Alors que la personne va aimer le jeu sans plus, bah dans ces cas-là, elle ne dira pas j'irai acheter les ressources.
Oui, pourquoi pas. Alors, moi, je considère souvent les rééditions, un peu quand c'est, surtout quand c'est le même éditeur, hein, un peu comme des aveux de faiblesse ou un peu comme de la fainéantise. C'est vrai que bah on peut pas toujours signer des jeux quand on est éditeur, et puis bah du coup on se dit ah bah tiens, ça fait quelques années, on va le, au lieu de refaire un print du jeu original, bah on va le relancer, ouais. On va refaire autre chose. Et souvent, bah il y a juste des micro changements. L'auteur retravaille pas complètement le jeu, donc en fait l'investissement de départ chez l'éditeur il est pas non plus énorme. Et donc c'est souvent l'intention de ce choix qui va déterminer si l'idée de la réédition est bonne et si c'est le jeu va vraiment améliorer son aïeul ou pas. Alors j'ai quelques petits exemples. Ouais. Alors le premier exemple, il y a eu quand même pas mal de modifications, c'est Medieval Academy, le premier jeu qui était sorti en 2014 chez Blue Cocker, ouais. Qui ressort en 2023. Alors là, il y a une refonte graphique totale, hein, avec un côté un peu animal manga. Moi, c'est pas trop mon trip, je préférais les dessins de Pierrot à la base, mais bon, il y a un public. Et une partie du matériel a été repensée. Complètement, et notamment... Ouais. Les pions de victoire, là, pour le coup, c'est où maintenant on a un compteur, et c'est nettement mieux que les petits pions qu'on devait garder face cachée de son côté. Donc, il y a à boire et à manger.
Et on a un plateau aussi, non ?
Parce qu'il y a pas. Et il y a un plateau, alors qu'avant c'était plusieurs petits plateaux,
ouais, voilà,
qui se mettaient côte à côte.
Ouais.
Alors le plateau est très très grand. Ouais.
Oui. Ça, très grand. Voilà.
Libertalia aussi, même cas de figure, ah pour oui. Ce jeu de pirates de 2012 du célèbre Paolo Mori. Alors les nouveaux graphismes de 2022 sont encore une fois pour moi en sacré décalage avec la thématique. Mais bon, voilà, écoute, ouais, ça fait rentrer le jeu un peu dans le rang mainstream des animaux humains qui vont être sur ces bateaux pirates. Alors, il y a aussi l'effet financement participatif, hein, qui n'est pas laissé de côté. Quand ouais. On voit l'exemple du jeu Château de Bourgogne, par exemple...
Ah hein, voilà.
Alors, on bave hein, devant la nouvelle version
ah bah,
du jeu agrémenté, comme tu dis. Là, pour le coup, c'est dans la boîte, hein, le matériel de luxe ah magnifique.
Voilà, oui.
Pour un jeu qui n'a mécaniquement pas pris une ride.
Ah non.
Il y a juste, je crois qu'ils ont dû rajouter un zéro sur l'étiquette, hein, au niveau du prix.
C'est ça.
Alors, pour les suites, alors, j'ai cherché, il n'y en a pas vraiment. Hein. Alors, j'ai un exemple en tête, chez Soif, sur We Are French, qui avait sorti Greenville 1989 en 2019 et en 2020 qui avait ressorti Paris 1889. Alors, pour moi, là, on avait affaire à un cas d'école. Le jeu était quasiment identique. Hein. On avait retouché dans le but, je pense, de gommer les défauts du premier. On avait un petit peu gardé le lore, mais si on avait juste changé l'époque de ces adolescents qui étaient absorbés dans un espace spatio-temporel. Sauf qu'on fait un bond de 100 ans en arrière par rapport au premier. On change de continent, donc de lieu. Mais sinon, c'est quasiment tout pareil au niveau de la mécanique. Le monstre de fin à combattre, la coopération, l'ambiance, le format de la boîte, l'univers graphique, tout sauf ben, quelques petites modifications de règles pour réduire le jeu à environ 20 minutes de moins, parce que ben, la problématique de Greenville 1989, c'est que le jeu était vraiment trop long ouais. Par rapport à ce qu'il faisait. Donc, est-ce qu'on considère ça comme une suite ou pas ? Est-ce que ces petites modifications qui apportent tout de même moins de difficultés et un accompagnement du joueur plus présent, ben, ça suffit à dire que c'est un jeu différent ? Bon, en tout cas, le second opus, pour ma part, était beaucoup mieux que le premier. Et on se rend compte qu'avec peut-être un peu plus de travail dans l'édition, on aurait eu la seconde boîte avant la première, ou même en remplacement de la première, et peut-être que ça aurait été carrément mieux. Bon.
On a un petit jeu aussi comme ça qui vient de ressortir, là, qui s'appelle Tone 77. L'année dernière, il y avait Tone 66.
66, voilà. Exactement. Donc, j'ai pas joué ni à l'un ni à l'autre. Bah, il y a une parenté forcément là dans le titre. Hein. Ça, on peut pas passer à côté. Maintenant, est-ce qu'ils ont rajouté une tuile 7 en plus des tuiles 6
Alors, il n'y a pas de tuile 7 ni de 6, Ludo. C'est des couleurs et des formes.
Ah, ça marche. Bon, bah, alors, différent, voilà. Okay. Donc, c'est 77 au lieu de 66. Alors, pour les rethématisations, alors là, c'est pareil, c'est une histoire de goût. Par exemple, moi, je préfère l'ambiance horrifique qui sent les algues du jeu Insondable chez FFG que son original Battlestar Galactica. Et là, je vois Simon du Passe-Temps qui est en train de se gratter de partout parce que lui, c'est son jeu favori.
Ouais.
Bon, le jeu est quasiment identique, mais c'est vrai que moi, je suis plus Cthulhu et salade d'algues que science-fiction
ouais.
et extraterrestre.
Ouais.
Mais bon, chacun... son avis, mais je pense que c'était une bonne idée chez FFG de faire ça. Et c'est pareil, je préfère aussi Louis XIV, qui est un vieux jeu chez Ravensburger, que la version simiesque qui s'appelle Mafioso, qui était sortie 12 ans plus tard, en 2017, chez Super Meeple.
D'accord.
Là, quand on enlève le thème, voilà, il n'y a plus grand-chose derrière, et c'était un peu dommage. Alors oui, alors Louis XIV, ça avait un peu vieilli aussi, j'avoue. Ouais. Bon. Alors du coup, pourquoi changer quand ça colle plutôt bien et qu'il n'y a pas d'histoire de licence derrière? Parce que je crois que c'était ça la problématique pour Battlestar Galactica, je crois qu'ils n'avaient plus la licence. Bon, on peut se poser la question. Alors, quand par exemple le jeu souffre d'un défaut d'édition, comme je pense pour Ethnos, qui était sorti en 2017 chez Cool Mini or Not, donc Simone, dont les illustrations de la boîte promettaient aux joueurs un jeu héroïque fantasy, de confrontation, découverte et une fois ouverte, laisser entrevoir un jeu de majorité marronasse, avec des pions et une thématique plaquée argent, là oui, c'était la déception, il fallait faire quelque chose. Alors, du coup, Space Cowboy en 2023 l'a ressorti sous le nom de Archaeos Society, et pour moi, c'est une version qui est plus fraîche, plus avenante, qui tient beaucoup mieux ses promesses dans son gameplay, qui est plus diversifié et son matériel plus réaliste. Et là, j'ai appris hier que Ethnos ressortait avec sa thématique originale, toujours, je crois, chez Cool Mini or Not, qui rafraîchit un peu le jeu. Donc, on se retrouve, et là, c'est assez inédit quand même, avec une deuxième version du premier jeu, mais pas rethématisé, mais qui ressort avec en même temps un jeu qui est sorti il y a moins de 2 ans. Enfin, bon, bref.
Ouais, quoi, ça devient compliqué, là.
Sans mêler les pédales. Alors, pour les gammes, là, par contre, on a un peu plus de matière. Alors, moi, la première gamme qui me vient à l'esprit, c'est les Unlock chez Cowboy.
Ouais.
Alors, qui propose au gré de ses 14 boîtes sorties depuis 2017 des scénarios originaux aux thématiques et difficultés différentes et dont chaque boîte apporte des twists différents. Alors, dans ce cas-là, c'est un peu comme pour les séries télé, il n'y a pas de préférence, mais en fait, le jugement il va être apporté sur le niveau de qualité d'écriture des scénarios proposés et les twists qui vont ou pas surprendre le joueur.
Oui.
Alors, on a aussi récemment Sur les traces, tu sais, chez Soif.
Oui, Sur les traces de Darwin et Sur les traces de Marie Curie.
De Marie Curie qui vient de sortir, donc après Darwin, et où on se rend compte que ce n'est pas facile de passer après un succès. Voilà.
C'est sûr, et puis c'est pas du tout le même jeu. Hein. Ça s'adresse pas au même public non plus. Hein.
Exactement, mais du coup, la question se pose un peu comme Greenville et Paris, comme on en parlait tout à l'heure. Pourquoi, en fait, avoir intitulé Sur les traces 2 avec quelque chose, jeu qui a une mécanique complètement différente, qui a un public complètement différent, qui a une cible, qui a même un boîtage qui est différent. Les attentes qui ont été portées dessus dans un premier temps étaient en relation avec Darwin. Ensuite, les premières parties qui ont été jouées, les premiers avis ont bien expliqué que c'était vraiment des jeux qui étaient complètement différents.
Déjà,
mais il y a
plus
une
âgé.
Paternité voulue par l'éditeur. Par le fait de créer une gamme.
Une gamme avec, je pense, avec aussi un côté un petit peu aquarelle au niveau des illustrations sur cette gamme-là.
Oui, ou une thématique scientifique, avec peut-être des mécaniques un peu différentes, mais à voir le troisième, s'il y en a un.
Je crois que c'était Mozart, si je ne dis pas de bêtises. Mais...
Ok, donc on sort
mais
du scientifique
sûr.
Et on arrive sûr. Sur le culturel peut-être. Okay.
Je ne suis pas sûr, je ne dis rien. Hein,
bon, ça marche, ok.
À vérifier.
Comme si on n'avait rien.
Exactement.
Alors, on a les aventuriers du gamme aussi, du rail, pardon, en tant que
gamme. Oui.
Alors bon, on en a parlé la dernière fois avec les extensions, mais il faut savoir que les aventuriers du rail, ils ont sorti aussi des stand-alone. Donc, il y a l'original qui se passe aux États-Unis, mais après, on a vu aussi autour du monde, une grosse boîte un peu plus chère avec des bateaux. On a vu la version Europe, qui est, je pense, ici, la version la plus jouée, peut-être, parce que elle est un petit peu plus aboutie, un petit peu plus joueuse. Mais il y a la version Allemagne aussi, qui est aussi toute seule.
Et France. Puis,
oui, exactement, qui est une boîte, mais c'est aussi un stand-alone. Et puis, il y a une autre version, j'ai le nom qui m'échappe, parce que je ne l'ai pas, donc je ne l'ai pas en fichier sur mon étagère. Alors, États-Unis, on l'a dit, mais c'est une boîte avec du noir dessus, et je crois que c'est Melky, je ne sais plus quoi, ça se passe dans le Nord, qui est aussi une boîte stand-alone.
Donc, d'accord.
Il y a aussi des gammes. Scorpion Masqué aussi, qui avait sorti Playback Zombie Kids, et qui a Flashback, pardon, Zombie Kids, et qui sort Flashback Lucie.
Ouais.
Pareil, effet de gamme, avec une mécanique centrale qui va être...
pas la même chose non plus.
C'est pas la même chose, mais on va quand même rester sur du Flashback.
Oui, oui.
Et puis bah, le Star Wars Deck Building aussi chez FSG qui est sorti, et en fait avec le nouveau là qui vient de sortir,
oui.
Où maintenant c'est la guerre des clones.
Ouais, c'est la même chose, sauf que...
On s'attendait en fait à une extension, c'est deux standalone.
Mais qu'on peut mélanger.
Et qu'on peut mélanger, malgré pour les puristes, le fait que ce soit quand même deux époques
différentes. Mais oui.
Voilà. On peut se retrouver avec deux personnages qui n'ont pas le même âge sur le plateau. Bon, voilà. On va terminer cette revue d'effectifs par les jeux qui sont réédités pour un public différent. Alors, il n'y a pas meilleur exemple pour moi que la gamme Access Plus, qui a été imaginée par le nouveau studio d'Asmodée pour créer à l'occasion Access Plus en 2022. Donc, afin de rendre le jeu le plus universel possible, Access Plus il travaille en partenariat avec des professionnels de la santé pour développer une gamme de jeux qui sont adaptés aux personnes qui présentent des troubles cognitifs. Alors, on y trouve les valeurs sûres de la marque, hein, Timeline, Double et Cortex. Il y a une autre initiative pour développer l'inclusivité dans le jeu de société, c'est la gamme Access. Donc ça se ressemble un petit peu hein, chez Gigamic, mais c'est pas la même chose. Là, c'est le fruit d'une collaboration de l'éditeur du nord de la France avec l'association parisienne Accessi-Jeux, qui permet aux joueurs malvoyants, donc là on est sur un handicap visuel, de profiter d'un jeu abstrait, incontournable. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, c'est Quarto.
Ouais.
Et il y a aussi une autre chez Pixie Game, du coup, avec Accessi-Jeux, le tout frais TTMC Access, qui va lui fonctionner avec une application vocale. Alors du coup, ces initiatives viennent proposer des jeux donc à des publics qui sont souvent mis à la marge et à la démarche qui est vraiment un grand bol d'air hein, dans ce gouffre économico-marketing qui est parfois le marché du jeu de société.
Alors, on a aussi Ludo Tiki Edition avec leur version Deluxe de Lucky Numbers où là pour les non-voyants aussi
cette
version.
On a agrandi effectivement le plateau et les tuiles pour avoir une meilleure manipulation et une meilleure visibilité.
Oui.
Maintenant, il n'est pas vendu pour ça.
Non, mais par contre, il y a vraiment quand tu touches, il y a vraiment des.
Oui, c'est aussi. Vrai. Pardon. Effectivement, tu as raison. Ils l'ont fait en braille.
Oui.
C'est ça ?
Voilà.
Oui, voilà. Donc ça, c'était. Je crois que tu me parlais de la version juste XXL du jeu.
Ah non, non,
donc
non.
Effectivement,
ouais.
Cette version-là, ils l'ont fait aussi en braille pour lire les chiffres dessus. Et c'est aussi une très bonne initiative de Tiki. Alors, donc c'est très compliqué dans le jeu de société de pouvoir parler des jeux entre eux, de séries, même s'ils font partie d'une même gamme ou d'une même série éditoriale. On n'a pas vraiment, en fait, la même chose, on a des outils de comparaison, on a des critères de comparaison comme la mécanique, l'univers, la patte graphique, le nom même hein, d'un jeu, ou alors même carrément comme Star Wars ou des choses comme ça, hein, une référence en fait culturelle sur une gamme de jeux. Mais bon, chacun jeu va raconter une histoire, et cette histoire, c'est plutôt à vous de l'interpréter un peu plus que pour les séries et de la faire vivre. Alors moi, je finirai toujours par mon petit mot qui est jouer pour aimer et aimer jouer. Et les séries, bon bah écoutez, regardez-les à la télé.
Merci beaucoup Ludo. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau point.
Alors,
sur Régie.
C'est le 11.
Ah oui,
tu vois, c'est moi qui fais le taf.
Donc, on ne se retrouve pas le 11, parce qu'effectivement, le 11, c'est férié. Hein, c'est l'armistice.
Voilà.
Et on a encore ce jour férié, peut-être qu'il va disparaître, on ne sait pas. Mais pour l'instant,
on
l'a.
Profitons-en. Hein,
voilà, exactement. Donc, on se retrouve le lundi 18 novembre,
le
Ludo.
Le 18, exactement.
Pour un nouveau point sur les J. Très, très
Allez.
Bonne semaine et à bientôt. Salut, Ludo.
Merci à vous. Au revoir.